Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, l'heure de notre émission Une heure en Palestine, qui est programmée sur Radio Galère 88.4 tous les mercredis de 18h à 19h. Cette émission est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est BDS Provence, le groupe local de la campagne BDS France, qui propose cette émission. BDS Provence a une page Facebook intitulée BDS Provence sur laquelle vous trouvez des informations quotidiennes, des articles de fond où vous pouvez aussi nous laisser un message en privé si vous avez des questions ou si vous désirez participer à nos actions ou rejoindre notre groupe, n'hésitez pas. La campagne BDS France a un site, c'est www.bdsfrance.org et BDS Provence a aussi une boîte mail, c'est BDS Provence tout attaché, hein, bdsprovence@orange.fr. Alors ce soir, je vous propose d'écouter dans un premier temps une conférence qui a été enregistrée la semaine dernière à Aix-en-Provence au café 3C, qui est un café culturel et citoyen. Ce café accueille des associations ou des événements organisés par des citoyens. Si vous voulez voir la programmation de ce café, c'est très intéressant. Il a un site, c'est Café Culturel Citoyen, tout attaché, hein, caféculturelcitoyen.org. Voilà. Alors, cette conférence, c'est une conférence qui a été faite par Thomas Vescovi. Thomas Vescovi, il est chercheur indépendant en histoire contemporaine, et il collabore à différents médias, Middle East Eye, Orient 21, Le Monde Diplomatique. Thomas Vescovi avait publié en 2015 un ouvrage intitulé « La mémoire de la Nakba en Israël chez l'Harmattan ». Et là, la semaine dernière, nous l'avions invité à venir nous parler de son dernier ouvrage qui est paru en 2021 aux éditions La Découverte et qui s'intitule « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël ». Ce livre raconte l'histoire des mouvements progressistes et révolutionnaires israéliens. Il remonte aux sources du mouvement sioniste avec une aile gauche qui cherchait à bâtir en Palestine un État pour les Juifs sur des bases socialistes. C'est un récit très documenté, très fouillé, qui analyse les débats, qui anime et divise ces mouvements depuis leur origine. Alors, à la lecture de cet ouvrage, des questions importantes se posent. Comment peut-on être sioniste et de gauche? Comment contrer les assauts de la droite sioniste et des mouvements religieux qui sont maintenant hégémoniques en Israël, hégémoniques sur le plan politique et également sur le plan culturel? Et comment construire une société juste et égalitaire avec les Palestiniens? Tout ça, ce sont de graves questions auxquelles Thomas va répondre lors de cette conférence. Alors, juste une petite précision avant de démarrer la conférence. Il s'agit donc, comme je l'ai dit, d'un enregistrement. Et malheureusement, la première phrase a été coupée. Donc, juste pour faciliter la compréhension, je précise que Thomas parle dans cette première phrase du gouvernement israélien actuel. Voilà, je vous laisse écouter cette conférence qui dure à peu près 43-44 minutes. Et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure.
Au sein de ce gouvernement, vous avez plusieurs ministres issus de deux grands partis historiques de la gauche israélienne. Et quelques éléments peuvent donner des signes positifs, on peut dire, pour l'avenir ou même pour les Palestiniens. On peut prendre par exemple les visites de certains ministres du gouvernement à Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Bon. La régularisation de villages bédouins dans le sud d'Israël. Des villages qui, en fait, n'avaient jamais été reconnus par l'État d'Israël et qui ont été enfin autorisés à se raccorder à l'eau et à l'électricité et à être reconnus par l'État. Ou, dans la bande de Gaza, l'élargissement de la zone de pêche et enfin l'entrée de carburant pour la population qui en avait tant besoin. Sauf qu'à bien y regarder, il y a aussi beaucoup de points de continuité avec l'ère Netanyahou. D'abord, le 22 octobre dernier, le gouvernement d'Israël, donc celui qui a mis fin à l'ère Netanyahou, a annoncé le placement de 6 ONG palestiniennes parmi les plus actives dans la défense des droits humains sur la liste des groupes terroristes. Et 48 heures après cette annonce, le même gouvernement a annoncé un appel d'offres pour 3000 nouveaux logements dans les colonies israéliennes de Cisjordanie. Au point qu'on puisse se poser la question, jusqu'à où est-ce que ce gouvernement peut être considéré comme une alternative à Netanyahou ? Au sein de ce gouvernement, les ministres issus des différents partis de gauche ont quasiment à chaque fois critiqué les décisions qu'elle a à l'encontre du droit international. La colonisation, les décisions qui allaient vers moins de liberté de circulation pour les Palestiniens, etc. Il y a eu des critiques qui ont été faites, mais si vous n'êtes pas au courant, c'est normal. Parce qu'en fait, en Israël, plus grand monde s'intéresse aux critiques que fait la gauche alors qu'elle est au gouvernement sur cette politique-là. Ça donne une idée à quel point est-ce que cette gauche aujourd'hui est faible en Israël. Son influence s'est grandement diminuée et il n'y a pas grand-chose à espérer d'un gouvernement dont le Premier ministre, Naftali Bennett, figure historique de l'extrême droite en Israël, a dit clairement que son gouvernement n'annexera pas, parce qu'il y a dans son sein des ministres qui sont contre l'annexion de terres palestiniennes, mais en même temps, lui s'opposera catégoriquement à toute formation d'un État palestinien. Le livre s'appelle « L'échec d'une utopie ». Et pour que vous compreniez où est-ce que je veux en venir avec le titre du livre qui a beaucoup fait débat et qui peut encore faire débat après, il n'y a aucun problème, évidemment. L'utopie dont je parle, c'est l'utopie sioniste de gauche. C'est-à-dire l'idée, pour une partie de la population juive européenne, d'avoir migré en Palestine dans l'espoir de créer un État pour les Juifs, pour la population juive, en pensant que cet État pourrait être sur des bases de gauche, d'accord, et qui pourrait demeurer sur des bases socialisantes ou de gauche. C'est ce projet-là que je pense être en échec aujourd'hui. Il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs que je vais développer, mais donnons d'abord trois chiffres qui me paraissent être très significatifs sur la société israélienne d'aujourd'hui. En 1949, lorsqu'il y a la première élection législative en Israël, sur les 120 députés de la Knesset, 71 se revendiquent des trois grandes tendances de la gauche israélienne, que je vais développer juste après. 71 sur 120, c'est dire à quel point le pays est clairement aux mains de gens issus ou se revendiquant de la gauche. En mars 2021, la même Knesset, 120 députés toujours, 72 députés israéliens sont issus des différents partis de droite et d'extrême droite en Israël. C'est dire à quel point idéologiquement ça a complètement basculé. Parmi les jeunes juifs israéliens qui ont entre 18 et 24 ans, la statistique a été donnée, 70% des jeunes juifs israéliens ayant entre 18 et 24 ans, lorsqu'ils se situent sur l'échiquier politique, disent clairement être plutôt à droite qu'à gauche, idéologiquement. Si vous prenez l'ensemble de la société juive israélienne, les études montrent que c'est 15% seulement de juifs israéliens qui aujourd'hui, quand on leur demande de choisir sur l'échiquier politique, disent être vraiment à gauche et être sûrs de leur choix. Le reste varie entre le centre, l'extrême droite, la droite, etc. Si bien que la question qu'on peut se poser, et c'est celle en fait qui est au cœur de l'échec d'une utopie, c'est est-ce que le projet initial était simplement de créer un État pour les Juifs ? Et dans ce cas-là, vous êtes plus nationaliste que de gauche, puisque l'État d'aujourd'hui n'est pas du tout un État progressiste. Ou alors vous considérez que le projet initial était vraiment celui de créer un État progressiste, et dans ce cas-là, vous pouvez avouer avec moi que c'est un échec. Puisque l'État tel qu'il a été créé et tel qu'il évolue aujourd'hui est très loin et ne va pas du tout vers l'idée d'un État qui pourrait être progressiste. Ce dilemme entre État progressiste et nationalisme juif a en fait été au cœur de la gauche juive en Palestine et en Israël aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le livre, je ne débute pas en 1948, je débute quasiment dès l'arrivée des premiers pionniers du mouvement sioniste en Palestine, à l'époque sous l'occupation, sous la direction ottomane, puis ensuite britannique ? Pour une raison simple, c'est que c'est en revenant à la racine qu'on peut comprendre justement ce que c'est que ce sionisme de gauche et toutes ses contradictions. Prenons un élément d'histoire important. 1917, révolution russe, migration de nouveaux juifs en Palestine. Et en 1920, suite notamment aux fameuses conditions données par Lénine pour créer des partis communistes, un débat éclate, le débat existait déjà avant, mais là il éclate au grand jour au sein de cette gauche juive en Palestine. Quel parti on doit mettre en place pour être vraiment de gauche ? Puisque la Russie, l'URSS, paraît être le symbole, le phare qui montre que c'est qu'être de gauche, donc on va débattre de ça. La question est simple. Est-ce qu'on fait un parti sur une alliance ethnique ? Donc on rassemble d'abord les juifs entre eux, ou est-ce qu'on est sur une base de classe sociale ? Une minorité marxiste estime qu'il faut créer un parti communiste de Palestine, c'est le nom qu'ils veulent donner, et ce parti-là sera basé sur une alliance de classes sociales. on va recruter les travailleurs arabes, les travailleurs juifs, et on va essayer de créer un mouvement ensemble. La majorité de cette gauche juive est contre, parce qu'elle estime que l'urgence face à l'antisémitisme qui monte en Europe, ce n'est pas du tout ça. L'urgence, c'est de créer un État d'abord pour les juifs, et un mouvement donc qui serait d'abord pour les juifs. On verra après pour la population arabe. Dès lors, la question était claire, mais comment vous pouvez vous revendiquer comme à la fois de gauche et sioniste si vous refusez d'accepter la base même de la gauche, qui est la question des classes sociales, et etc. Bon. En fait, il y a trois grandes raisons pour lesquelles ces gens peuvent tout à fait s'identifier comme sionistes et de gauche. La première raison, c'est la question du racisme et de l'antisémitisme. Ils migrent d'abord en Palestine, pas forcément pour prendre la terre à un peuple, mais d'abord pour espérer créer un lieu de refuge aux personnes qui sont discriminées et victimes de racisme en Europe. Et on sait à quel point l'antisémitisme va monter crescendo dans toute la première moitié du XXe siècle. Dès lors, si leur mouvement est forcément un mouvement de libération pour les Juifs, toute accusation de racisme pour eux n'a pas de sens, puisqu'ils pensent libérer les principales victimes du racisme. Donc pour eux, ils sont forcément antiracistes. Ça n'a pas de sens de dire qu'ils sont racistes, en tout cas de leur point de vue. Deuxièmement, les écrits qui les animent, les pratiques politiques qui les animent, pensent qu'ils vont clairement vers l'édification d'un État progressiste dans une région où la population arabe dans cet empire ottoman, et surtout même après avec l'arrivée des mandataires britanniques et français, ne sont pas les mêmes idées qu'on a en Europe. Il y a un conservatisme assez clair, les idées, que ça soit progressiste, libéral, socialisante, marxisante, on peut ou pas pénétrer la région. Donc clairement, eux pensent être une espèce d'avant-garde. Ils pensent que c'est eux qui vont emmener un État progressiste et qui va bousculer cette région. Et troisièmement, aussi fou que ça puisse paraître, s'ils assument complètement l'idée de créer l'État par la colonisation, n'oubliez pas qu'à l'époque, en Europe, la plupart des partis de gauche sont aussi des partis colonialistes, pour eux, il n'y a pas de contradiction avec ça du tout, ils estiment aussi qu'ils font partie d'un mouvement également décolonial. C'est-à-dire qu'ils pratiquent la colonisation pour prendre des territoires, mais leur but principal, c'est d'arracher l'indépendance de ce pays, d'abord aux Ottomans, puis ensuite aux Britanniques. Si bien qu'il y a une espèce de contradiction dans leurs écrits, ils vont se revendiquer comme de sincères anticolonialistes. Oui, nous voulons décoloniser le territoire parce qu'on va prendre cette terre aux Britanniques qui n'ont rien à faire là. Et on va leur arracher et on va créer un État enfin indépendant de Palestine qu'ils vont appeler du coup Israël. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le ralliement de l'URSS au projet de partition de la terre de Palestine et donc à la création d'Israël va mettre fin pendant quelques années au débat entre les communistes qui eux disent que vous vous fourvoyez, il faut une alliance de classe sociale, et les sionistes de gauche qui disent non, pas du tout, l'urgence c'est d'être organisé entre juifs. Pourquoi ? Parce que l'URSS, malgré toutes les critiques qu'aujourd'hui on peut connaître, à l'époque, il faut bien se remettre dans le contexte, continue de symboliser et de, dans les esprits, de marquer ce que c'est que la gauche, le marxisme, dans tout ce que ça peut avoir de plus radical. Et dans ce cadre-là, le ralliement de l'URSS fait que, bah, y a plus de débat à se poser. On est dans le bon camp de l'histoire. Je vous rappelle que, et dans le livre j'en parle un petit peu, même un journal comme L'Humanité, lors de la première guerre israélo-arabe en 48, le correspondant de L'Humanité en Palestine, il y en a un, François Bonte, fait des articles absolument dithyrambiques en faveur des combattants juifs. Pour lui, les combattants juifs en 48, il dit, c'est ce qu'il dit, c'est l'équivalent des combattants au Vietnam qui combattent les Français. Il dit c'est eux les vrais anticolonialistes, parce qu'on ne comprend pas qu'en fait, il y a un colonialisme à plusieurs niveaux. Bon. Cette gauche, donc, je vais vous faire comprendre à quel point elle a été au cœur de la création d'Israël jusqu'aux années 70. Elle a été hégémonique, elle a été dominante. Si aujourd'hui, on peut avoir l'impression que le pays est complètement droitisé, il ne faut surtout pas oublier à quel point est-ce que, et ceux qui ont peut-être été en Israël l'ont constaté, à quel point dans certaines villes, certains lieux, la société civile est encore très dynamique, très active, très créative, et il existe encore en Israël tout un tissu associatif, que certains peut-être ont pu rencontrer en allant là-bas, qui continue à militer et à en croire dans une possible alternative de gauche et surtout une paix avec les Palestiniens. Pour autant, qu'est-ce qui a pu se passer? C'est ce qu'on va essayer de comprendre là maintenant entre nous. De cette hégémonie de 48 à aujourd'hui un état d'élitement total de la gauche israélienne. Évidemment, j'anticipe les questions. Il y a beaucoup de similitudes avec la situation française, je l'avoue totalement. J'en vois au moins deux. La première, c'est que ce n'est pas qu'en Israël que les valeurs socialisme, marxisme paraissent complètement désuées à une partie de la population, ou du moins appartenant au passé. Et deuxièmement, le libéralisme, mais encore plus en Israël quand même, le libéralisme a complètement conquis une partie importante de la société progressiste, je dis bien progressiste, qui du coup ne voit pas pourquoi est-ce qu'on aurait une société antilibérale. Le libéralisme doit et censé apporter tellement de bénéfices, etc. Et ce libéralisme-là, qui du coup donne l'impression que la priorité, c'est d'abord la liberté individuelle, rend toutes les luttes qui peuvent être collectives et d'organisation beaucoup plus lentes, où il faut prendre l'avis de tout le monde, etc., peuvent paraître comme complètement dépassées comme cadre d'organisation. Et la gauche, qui continue à être là-dedans, même en Israël, paraît être complètement dépassée par rapport aux luttes de certains groupes plutôt jeunes en Israël, où la question des libertés individuelles, les questions LGBT, les questions liées à différents sujets, paraissent être des sujets aujourd'hui de lutte importants pour eux. On y reviendra, évidemment. Cependant, même s'il y a des similitudes, je pense qu'elles s'arrêtent là. J'estime qu'il y a en Israël, et c'est ce qui façonne un peu toute l'histoire dans le livre, il y a au moins quatre raisons qui structurent progressivement dans le temps le délitement de la gauche en Israël. Le premier, c'est la question sociologique. Israël a été créé par une population juive essentiellement originaire d'Europe, pour qui le libéralisme, le marxisme, le socialisme, ça fait parler, ça fait sens. Dans les années 50-60, arrive une première vague d'immigration qui va concurrencer démographiquement ces juifs européens. Ce sont les juifs originaires du monde arabe. Pour cette population-là, quand on leur dit qu'ils arrivent dans l'état des juifs, pour eux, ça veut dire que c'est un état où la religion est présente. Manque de peau, quand ils arrivent, ils découvrent un état qui est aux antipodes de ce qu'ils imaginaient. L'exemple, il y en a plusieurs dans le livre que je donne, mais l'exemple le plus parlant à mon avis, c'est la question scolaire. Lorsqu'ils arrivent dans les camps de transit, ces juifs du monde arabe, pour être accueillis, pour trouver un logement et un travail, ils ne comprennent pas pourquoi dans les écoles où les enfants vont, il n'y a pas religion. Et qu'est-ce que c'est que cette idée de leur enseigner le socialisme, le libéralisme, parce qu'une partie des profs à l'époque était liée à la gauche et à tout ce que ça peut avoir en tête. Donc ils ne comprennent pas la différence de point de vue. Le symbole de cette confrontation, c'est la question des juifs yéménites, peut-être certains connaissent ce sujet, qui fait scandale en Israël depuis maintenant à peu près 10-15 ans, et des procédures judiciaires en cours, où 3000 enfants juifs yéménites, quand ils arrivent en Israël, leurs familles perdent la garde des enfants, les juifs yéménites étant vus par l'État à l'époque comme les plus arriérés de tous, et les enfants vont être placés dans des familles juives ashkénazes européennes, afin, on cite Ben Gourion, de révolutionner culturellement cette population. Israël veut leur faire retirer complètement leur arabité, en estimant que être juif, c'est pas ça. C'est pas être identité arabe et religion juive. Non, être juif, on va vous montrer ce que c'est être moderne, être comme nous, avec un judaïsme beaucoup plus culturel, etc. Et toutes vos pratiques excentriques, on les met de côté. Sauf que cette discrimination, cette fracture, va entraîner naturellement une grande partie de cette population juive orientale vers un vote beaucoup plus à droite, où là, à l'inverse, à droite, on n'a aucun mal à imaginer un État d'Israël à la fois... pourquoi pas juif et démocratique, mais où la religion ne serait pas laissée en dehors de l'État, mais au contraire serait bien présente au cœur de l'État. En 77, l'année centrale où la gauche prend le pouvoir en Israël, les 4/5 des électeurs juifs orientaux donnent leur bulletin de vote à Begin à la droite. Les 4/5, c'est-à-dire que c'est mathématique, c'est massif, c'est mathématique. Ils en veulent à la gauche, et jusqu'à aujourd'hui, moi ce qui m'a marqué, c'est quand vous discutez avec... certains jeunes juifs orientaux, attention, ce n'est pas une majorité, je ne donne pas des, je fais pas des généralisations, je donne juste des grandes tendances. L'une des raisons pour lesquelles ils vont vous dire, alors que c'est pourtant une des populations les plus pauvres en Israël aujourd'hui, hein, ces juifs orientaux, pourquoi vous ne votez pas à gauche? On vous dit parce que la gauche est contre la religion. Elle est pour une identité juive qui n'est pas la nôtre du tout. Nous, on veut un État pour les juifs, un État juif. Et eux, ils veulent un État qui serait un État laïque, etc. Et nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Ce n'est pas notre credo, entre guillemets. La deuxième grande vague d'immigration qui est importante, c'est celle des juifs d'ex-URSS dans les années 90. Là, qu'on ne se méprenne pas, cette population-là n'est pas religieuse. Leur dynamique politique principale, c'est un nationalisme qu'on peut catégoriser comme exclusif. En gros, leur idée centrale, et j'essaie de pas trop simplifier, c'est pour que l'État fonctionne bien, il doit avoir la main sur une nation très homogène. Donc le multiculturalisme, la diversité culturelle, toutes les questions de liberté individuelle, etc., ça c'est de la déviance. Il faut une nation homogène et un État très fort. D'où notamment le principal leader des juifs d'ex-URSS, Avigdor Lieberman, est quelqu'un en Israël qui est à la fois anti-religieux, mais clairement d'extrême droite. C'est un nationaliste de première qui à plusieurs reprises a dit que lui, il a une solution très simple, c'est l'expulsion des habitants non-juifs d'Israël pour créer un État où on serait entre guillemets entre nous et ce serait beaucoup plus simple comme ça. Dans un État d'Israël où vous avez à peu près aujourd'hui 8 millions d'habitants, ayez en tête que l'arrivée de 900 000 juifs d'ex-URSS dans les années 90, ça bouleverse complètement le système politique. N'ayez ça en tête, ce n'est pas un pays aussi grand que la France. Aujourd'hui, on a autour de 30% de juifs originaires d'Europe, ou du moins qui s'identifient comme ça, attention, et on constate que c'est encore eux qui tiennent en grande partie les rênes de la gauche israélienne, et ça explique également pourquoi est-ce qu'ils ont si peu d'emprise auprès de ces autres populations. Le deuxième grand moment qui explique pourquoi la gauche va se déliter, c'est 67, guerre des six jours, l'État d'Israël met la main sur Gaza, la Cisjordanie, le désert du Sinaï et le Mont Golan. Je me concentre que sur la Cisjordanie et Gaza pour qu'on comprenne un petit peu où est-ce que je veux en venir. Israël, lorsqu'elle met la main sur ces territoires-là, c'est d'abord l'obtention de ressources naturelles qu'on a payées à personne et qu'on va exploiter. L'eau en Cisjordanie, les terres agricoles, tout ce qu'on peut imaginer qu'on peut avoir comme ressources naturelles sur des territoires qu'on vient de conquérir. Mais surtout, Israël va interdire aux populations, notamment de Gaza et de Cisjordanie, d'importer des produits arabes, ce qui était une tradition dans ces territoires-là, au profit uniquement de produits israéliens. Il faut s'imaginer le jackpot pour les entreprises israéliennes d'avoir un marché aussi captif qui est contraint en plus de consommer nos produits. Donc là, forcément, ça dynamite complètement l'économie. Deuxièmement, Israël est un rare exemple dans l'histoire des guerres modernes où le pays qui a vaincu, qui a gagné la guerre, est le pays qui va investir le plus au lendemain de la guerre dans une industrie militaire. Pourquoi ? Parce que Israël, au lendemain de 67, considère que l'occupation de ces territoires de Gaza et de Cisjordanie va nécessiter beaucoup d'argent et beaucoup d'hommes, et on a besoin du coup de développer notre armée. C'est le début de la construction de tout le complexe industrialo-militaire qui va complètement développer une classe bourgeoise incroyable, qui va s'en mettre plein les poches, et notamment par un troisième élément, qui est que l'allié principal d'Israël change. Entre 48 et 67, la France était le principal partenaire d'Israël. Vous avez peut-être vu la vidéo de De Gaulle qui critique en 67 l'occupation et la colonisation par Israël. Donc la France perd ce statut d'allié principal au profit des États-Unis. Sauf que les Américains, on ne devient pas leur allié gratuitement. Les Américains mettent dans la balance le fait que l'État doit se libéraliser. C'est-à-dire que les 40% de services publics qui existaient dans l'économie israélienne entre 48 et 67, c'est fini. Vous devez libéraliser votre entreprise pour que nous, nos investisseurs, puissent avoir des parts dans votre marché. Et donc tout l'État qui pouvait être vu comme l'État des kibbutz, un peu socialisant, etc., pour les juifs à l'époque, se détricote progressivement. La bourgeoisie qui pourtant votait à gauche avant, commence à se dire qu'en fait c'est vrai que l'État est trop présent. On va voter à droite, il faut libéraliser le pays. Et les plus pauvres, les juifs orientaux, j'expliquais avant pourquoi, eux également vont se mettre à voter à droite. La gauche perd en fait une grande partie de son électorat. Et elle va garder la main uniquement sur des classes moyennes, surtout fonctionnaires, et plutôt, disons, avec voilà, les cultures des kibbutz, etc., qui vont continuer à voter, ou certaines grandes villes comme Tel Aviv, qui va rester un fief important de la gauche, mais vous allez voir que ça ne va pas durer très longtemps. Et enfin, le quatrième élément dans cette question 67, c'est qu'à mesure où des colons s'installent en Cisjordanie, eh bien, le nombre de voix pour la droite augmente. C'est mathématique. Aujourd'hui, vous avez un peu moins de 700 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. 700 000 Israéliens qui vivent dans ces colonies. On peut dire ce qu'on veut. Ils sont là pour des raisons économiques, etc. Certes, mais en termes d'élection, à chaque fois qu'il y a un scrutin, ils votent très, très à droite. En mars 2021, dans les colonies de Cisjordanie, les deux partis arrivés en tête, c'était le Likoud de Netanyahou et le parti suprémaciste juif qui plaide pour l'expulsion de tous les Palestiniens. Ce qui veut dire qu'un parti de gauche qui arrive à une élection en Israël en disant « Nous, c'est simple, notre programme, c'est droit international, démantèlement des colonies, comme le veut le droit international, État palestinien, partage de Jérusalem, etc. », il est sûr de démarrer sa campagne avec au moins 500 à 6 000 voix de retard. Donc il faut trouver des voix ailleurs. Et c'est ça, pour l'instant, que la gauche n'arrive toujours pas à faire. Ce qu'a essayé du coup de faire la gauche après 77, quand elle a perdu le pouvoir, c'est de se renouveler. Et ce renouvellement, elle va notamment le puiser au sein d'une société civile très dynamique qui va être à l'avant-garde de tout le processus de paix avec les Palestiniens. En gros, pour faire très simple, ça c'est un peu un équivalent avec la France, quand la gauche est au pouvoir, même la gauche socialiste, les militants ont du mal à critiquer l'État et le pouvoir. On les ménage. Par contre, quand ils perdent le pouvoir, là on devient les plus militants de tous et les plus critiques. Et bien là-bas en Israël, c'est pareil. Au lendemain de 77, une partie de la société civile de gauche se libère enfin d'une espèce de carcan et se met à militer au sein de plein d'organisations et va développer toute une structure d'associations et d'ONG dont on connaît aujourd'hui en partie certains. Je pense à B'Tselem, je pense à La Paix Maintenant, etc. Et en fait, ces associations-là vont progressivement permettre aux partis travaillistes et à une partie de cette gauche sioniste de se réinventer, de dire en fait, notre électorat, il nous attend sur ça maintenant, notre capacité à aller faire la paix avec le voisin. D'abord le voisin arabe, parce qu'il ne pense pas du tout à l'époque à Arafat, d'abord le voisin arabe, et après, par différentes raisons que je peux expliquer dans le débat si vous le souhaitez après, Rabin va être contraint en fait d'aller voir Arafat puisqu'il ne peut pas faire autrement. Pour faire très clair et très simple ce processus de paix entre Israël et l'OLP et Arafat, la gauche promet aux Israéliens une paix et un règlement du conflit uniquement par un accord et une séparation à l'amiable entre deux peuples. La question coloniale n'est jamais mise au centre de tout. La question de la colonisation, la question de toute cette bourgeoisie qui existe toujours, hein, tout ce lobby colonial qui lui... Hors de question qu'on arrête de coloniser et qu'on retire un petit peu de billes dans le complexe militaro-industriel, interdiction. Vu que ça, c'est pas réglé, l'État palestinien viable, c'est absolument impossible. Dès lors, les Israéliens ne comprendront pas pourquoi le processus de paix échoue. Et surtout, il y a un moment qui me paraît, moi, être complètement décisif. Et c'est pas l'assassinat de Rabin qui est vraiment un moment important, mais pour moi, l'élément qui vraiment... fait s'effondrer totalement toute cette espérance de paix parmi les juifs israéliens, c'est 2000. Puisqu'en 99, le parti travailliste parvient à reprendre le pouvoir. Entre-temps, il y a eu Netanyahou qui est arrivé, je vous passe les détails, mais 99, le parti travailliste reprend le pouvoir, avec à ses côtés de petits partis de gauche, etc., beaucoup plus dynamiques que lui, mais lui, c'est un peu le gros parti voilà, qui est au cœur de ça. Il prend le pouvoir, et il prend le pouvoir en promettant à la population juive israélienne de revenir au cercle des négociations. Le leader, Ehud Barak, est élu en promettant qu'il va refaire des négociations. Arafat refuse catégoriquement en disant « S'il n'y a pas un engagement sur au moins 4 conditions, je ne viens pas négocier, c'est une perte de temps et vous allez tromper mon peuple. » Sauf qu'à l'époque, l'autorité palestinienne est déjà créée et Bill Clinton, président américain, fait bien comprendre à Arafat que « Tu viens négocier ou l'argent, c'est terminé pour toi. » Arafat va aux négociations et au lendemain des négociations, Ehud Barak a cette phrase qui pour moi est dévastatrice, il dit « c'est fini, on n'a plus de partenaires pour la paix. On a fait une offre généreuse à Arafat, il l'a refusée. » N'ayons pas d'illusions sur Oslo du tout, mais par contre vous devez comprendre une chose. Dans les années 80, ce que j'expliquais juste avant avec La Paix Maintenant, B'Tselem, même le Matzpen dont on n'a pas parlé mais qui était une organisation d'extrême gauche assez importante à l'époque, tous ces groupes-là commençaient bien avant Rabin et la gauche travailliste à tisser des liens et des relations avec des Palestiniens. Ils créaient des groupes d'échanges entre professeurs, entre éducateurs, entre militants, anciens militaires et combattants armés en Palestine. Bref, ils créaient des points de discussion. Ils étaient vus comme des traîtres par leur société. Et ils en souffraient beaucoup et certains ont même été jusqu'à être emprisonnés, je pense quelqu'un comme Michel Warschawski, pour leur militantisme. Lorsque Arafat est vu en train de serrer la main à Yitzhak Rabin, vu qu'il est... général énorme en Israël, il faut penser, général en 48, Rabin, chef d'état-major, donc vraiment quelqu'un que même la droite ne peut pas accuser d'être un traître, c'est pas possible. Et bien lorsque Rabin serre la main à Arafat, ça normalise chez tous ces gens leurs initiatives. Et ça va encourager plein d'Israéliens, pendant à peu près 3-4 ans, de 93 jusqu'à 96-97 à peu près, à s'engager également dans ces associations. Tous ces Israéliens qui jusque-là étaient bah, « nous on veut croire à la paix, mais on n'est pas des militants, on ne s'engage pas », ils vont commencer à se dire bah, « en fait on va également prendre part, on va aller voir les Palestiniens, nous, on veut entendre ce qu'ils ont à dire, etc. » C'est intéressant cette histoire de paix avec le voisin. Bon. Sauf que pendant ce temps, la droite, elle disait quoi? Elle disait « c'est un piège. La... Arafat, les Palestiniens ne veulent pas la paix, vous allez voir, c'est un piège. » Donc lorsqu'en 2000, Ehud Barak, président du Parti travailliste, censé représenter, entre guillemets, cette espèce de volonté de discuter avec les Palestiniens, dit la même chose que la droite. Pour tous les Israéliens lambda, dans cette zone un peu neutre entre droite et gauche, c'est fini. Bon ben voilà, on voit bien la réalité. Il n'y a plus d'espoir de paix. Barak l'a dit, Arafat est un traître. Surtout que 2 mois après, se déclenche la deuxième intifada, qui va être pour les Israéliens un moment absolument incompréhensible, parce qu'ils ne comprenaient pas c'était quoi pour eux, c'était quoi être palestinien. Moment incompréhensible, dont en plus, vous savez peut-être, mais la société juive israélienne va être complètement traumatisée par la militarisation de cette seconde intifada et surtout par la vague d'attentats kamikazes qui va coûter la vie à 690 Israéliens entre 2000 et 2005. Près de 3000 Palestiniens qui meurent à la seconde intifada, on est bien d'accord, mais pour les Israéliens, c'est la première fois qu'il y a autant de gens qui meurent au sein d'Israël, et pas dans le cadre d'une guerre, etc. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc pour eux, c'est terminé, on ne parle plus de paix. Dès que la gauche va parler de paix et deux États, c'est fini, on ne veut plus entendre parler. Maintenant, on va voter à droite. Et surtout, on va voter à droite pour une nouvelle classe politique, incarnée notamment par Ariel Sharon et ensuite par Netanyahou, qui, elle, va plutôt proposer un autre accord aux Israéliens. C'est de dire, voilà, la gauche vous a promis la séparation à l'amiable, c'est pas possible. Il n'y a pas d'accord à l'amiable avec les Palestiniens, on pourra pas faire ça. Par contre, nous, on va faire la séparation par la force. On va tout prendre aux Palestiniens, tout ce qu'on leur a donné au sceau, on va tout leur reprendre. On va créer le mur qui était un projet de gauche va être agrandi et va être mis enfin sur place. On va se retirer de la bande de Gaza pour complètement invisibiliser les Palestiniens. Et on va resserrer l'occupation en Cisjordanie. Et ça va être notre assise. Et on va se séparer par la force d'eux. C'est-à-dire qu'en gros, seuls les Palestiniens qu'on voit comme les plus soumis auront maintenant le droit de venir chez nous. Et sinon, le reste, on ne les voit plus, on n'en parle plus. Et ça va ramener une espèce de semblant de paix pour les Israéliens. Ils vont penser que ça fonctionne. Du côté de la gauche et des militants historiques du camp de la paix, il y a ce qu'on appelle un effondrement moral et politique et surtout une espèce de mise en sommeil. Une partie de militants vont arrêter complètement de leurs engagements, découragés, ou les autres vont se retirer des grandes organisations historiques au profit de petites structures de lutte. Je pense par exemple à Taayouch, peut-être certains connaissent Taayouch, qui est toujours d'ailleurs une association qui rassemble des jeunes juifs israéliens qui vont dans des villages palestiniens créer des lieux de rencontre autour de l'agriculture, etc. Donc c'est super important, ils font un énorme travail. Je pense à Zorot, certains peut-être connaissent Zorot ici, une ONG assez importante en Israël qui lutte pour la reconnaissance de la Nakba par les Israéliens. Breaking the Silence également, qui va naître à ce moment-là. En fait, toutes ces structures-là vont naître et vont apparaître justement parce que les Israéliens comprennent bien que le grand mouvement du camp de la paix, c'est fini. Maintenant, on va plutôt être sur des petites causes, mais qu'on va essayer de faire avancer à notre échelle. C'est un petit peu ce qui va se passer. Et enfin, le dernier grand élément qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette gauche n'arrive plus, c'est que Israël, en fait, n'est jamais parvenu à trancher la question d'être à la fois juif et démocratique, comme il prétendait l'être en 48. Tant que les juifs étaient majoritaires, dire qu'on est juif et démocratique, personne vraiment questionne, ou alors vraiment les spécialistes, mais sinon, bah oui, bah regardez, il y a des élections... La population juive et l'État savaient très bien qu'ils n'étaient jamais contestés dans leur majorité, donc on laisse la démocratie fonctionner. Problème aujourd'hui, le fait qu'aucun État palestinien ne puisse voir le jour va un jour ou l'autre contraindre Israël à prendre en charge ou à devoir gérer la population palestinienne de Cisjordanie, voire même de Gaza, puisqu'ils ne vont pas rester à l'état éternam sans droit politique et sans aucune débouchée. En tout cas, je n'y crois pas. Problème, c'est qu'au niveau démographique, entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain, c'est 50-50 aujourd'hui. Ça ne l'était pas en 48 ni en 67. C'est 50-50 aujourd'hui. Autant de juifs que d'arabes. Démographiquement, ça veut dire que soit Israël veut toujours être une démocratie, mais devrait un jour ou l'autre céder et donner une voix, une personne. Dans ce cas-là, tu n'es plus à majorité juive. Donc le sionisme perd son sens. Soit tu considères que la priorité, c'est de rester juif. Dans ce cas-là, tu n'es plus démocratique. Et dans ce dilemme-là, c'est la droite qui le comprend mieux que la gauche. La gauche continue de dire « Non, on va créer un État palestinien pour préserver l'État d'Israël à majorité juive. » C'est le discours de gauche encore aujourd'hui. La droite, qu'est-ce qu'elle dit ? « Non, il n'y aura pas d'État palestinien. » Par contre, on va trouver d'autres solutions. Par exemple, en 2018, Netanyahou fait voter la fameuse loi d'État-nation du peuple juif, dont l'article 1 est clairement une anticipation de l'avenir en disant « Peu importe démographiquement ce qui se passera, le droit à l'autodétermination sur ce territoire n'appartient qu'à la population juive. » Donc même si démographiquement, on est minoritaire, c'est nous qui déciderons de ce qu'on fait de l'État. Et au sein de la droite aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui disent clairement « on va annexer ». Qu'est-ce qu'on fait des Palestiniens ? Ben, on leur donne la citoyenneté israélienne, on s'en fiche. De toute façon, ils auront des droits qui ne seront pas égaux et on arrivera à les contrôler, à les gérer. Là où la gauche, elle, continue à dire « non, 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 on va créer un État palestinien parce que ça va nous préserver de cette menace démographique ». Face à ça, la gauche a en gros deux grandes attitudes depuis maintenant 10 ans. La première attitude, c'est celle du Parti travailliste, qui est de considérer qu'on peut renouveler le sionisme de gauche. On peut les réinventer, c'est encore possible, on continue d'y croire. Et sur quoi il se base surtout ? Il se base sur le fait de trouver de nouveaux terrains de combat. 71% des juifs israéliens, dans une enquête d'opinion récente, 71% des juifs israéliens estime que le conflit entre les laïcs et les religieux est celui qui pourrit le plus la société israélienne aujourd'hui. Le deuxième, c'est l'Iran. Le troisième, c'est la question palestinienne, pour vous dire à quel point les Palestiniens sont relégués. 59% des juifs israéliens défendent l'idée que l'État devrait être davantage laïque. Attention, laïcité française, c'est pas la même chose partout. Laïque au sens où la synagogue devrait être plus séparée de l'État, et au moins qu'il y ait un mariage civil. Vous savez peut-être qu'en Israël aujourd'hui, le mariage civil n'existe toujours pas. Aujourd'hui encore, quand une femme veut divorcer en Israël, il faut qu'elle obtienne l'autorisation de son mari. Sachez-le. Donc ça, au moins, ils veulent la possibilité que ça soit terminé, qu'on ait un mariage civil et qu'on ait un droit de divorce normal. 59%. Donc le Parti travailliste se dit, là, on a un enjeu. On a un angle d'attaque important pour se renouveler. Le problème, c'est que ce Parti travailliste n'a pas pris en compte le fait qu'il reste vu comme le parti d'Oslo et donc le parti de la paix avec les Palestiniens, enfin de la paix, vous comprenez ce que je veux dire, de la main tendue aux Palestiniens. Et surtout que sur ce créneau de liberté individuelle, de laïcité, ben, y a un parti qui s'est créé en 2013 et qui domine complètement. C'est le parti de Yair Lapid, qui est un ancien journaliste de télévision, enfin présentateur télé plutôt, et qui a créé ce parti avec une obsession, Yair Lapid, c'est de créer vraiment une offre politique au centre de l'échiquier politique, au centre du l'échiquier politique sioniste, avec deux grandes idées, défense du libéralisme économique et défense des libertés individuelles. Donc des droits des personnes, donc je rappelle, hein, LGBT, j'insiste sur ça parce qu'en Israël, c'est vraiment une question qui a sens, notamment à Tel Aviv, pour plein de raisons qu'on peut évoquer après, si vous le souhaitez. Et son front anti-religieux qu'il mène depuis 2013, c'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'être le principal opposant à Netanyahou en Israël. Quand on demande en Israël qui est le principal opposant à Netanyahou, c'est Yair Lapid. Avant, c'était quelqu'un qui s'appelait Benny Gantz pour d'autres raisons, mais Yair Lapid a toujours été l'une des principales figures. Aujourd'hui, il compte autour de 17 députés à la Knesset, ce qui est important pour un pays comme Israël. Et le Parti travailliste, lui, n'en a plus que 7. Alors que c'est pourtant l'historique parti qui a mis en scène Israël. L'autre alternative, qui est celle qui est de plus en plus pensée, ben, c'est toujours l'alternative arabo-juive. Le fameux parti communiste que j'évoquais tout à l'heure en 1920, il n'a pas disparu. Dans toute cette histoire israélienne, il s'est évidemment, comme la gauche radicale sait le faire, divisé, scissionné à plusieurs reprises, puis réuni, puis redivisé, puis réuni. Et cette gauche-là, arabo-juive, non-sioniste ou anti-sioniste, comme vous voulez, au lendemain de la seconde intifada, elle fait un constat qui est très clair. Ce constat, c'est de dire, bon, notre problème est toujours le même. Si on veut rassembler les juifs progressistes, il ne faut pas qu'on soit antisioniste, sinon ils ne votent pas pour nous. Si on veut rassembler une majorité d'Arabes israéliens, hein, les 18% de la population arabe palestinienne qui vit en Israël, en fait ce sont les descendants de ceux qui n'ont pas été expulsés en 48, qui vivent toujours en Israël, si on veut avoir les voix de ces gens-là, au contraire, il faut montrer que nous, on est vraiment antisioniste. Vu que nous, on est le parti communiste et on veut les voix des deux, on prend des coups des deux côtés et personne ne vote pour nous. C'est un peu le constat qu'ils font. Suite à ça, ils ont une idée. L'idée est très simple, je peux l'expliquer brièvement, c'est de se dire que voilà, 30% à peu près de juifs israéliens continuent à vouloir voter pour un camp progressiste, ou du moins aspirent à avoir l'émergence d'un État ou d'un gouvernement de centre-gauche, alors certes sioniste, mais qui aurait une volonté d'être beaucoup plus combatif face aux religieux à l'extrême droite. Eh bien nous, la gauche non sioniste, arabo-juive, on va essayer de tous nous rassembler sur une seule liste, pour augmenter notre nombre de députés et pour rendre obligatoire le fait de s'allier avec nous si on veut former un gouvernement sans l'extrême droite et sans les religieux. C'est ce que va faire Ayman Odeh, député communiste arabe. À partir de 2013, mais surtout 2015, il arrive à rassembler sur une seule liste, la liste unifiée, l'ensemble des partis palestiniens d'Israël, qui va des nationalistes arabes aux islamo-conservateurs, avec en même temps des notables très connus là-bas, et le Parti communiste, qui est un petit peu au centre de cette alliance complètement incongrue. Mais l'idée est simple, c'est de dire, voilà, on va tous s'allier. En s'alliant, on va augmenter le nombre de voix pour nous au sein de la population palestinienne d'Israël. On va s'adresser à tout le monde en Israël, on va être les seuls à faire ça, on va s'adresser à tout le monde en Israël pour que les progressistes votent pour nous également, les juifs, pour dire, bah, en fait, eux, au moins, ils parlent à tout le monde, et pas que aux juifs religieux, non religieux, etc. Ils parlent à tout le monde. Et on verra ce que ça donne. Et il parvient, en mars 2020, à avoir 15 députés à la Knesset, troisième force politique du pays. Il obtient surtout plus de 90% des voix dans les grandes villes palestiniennes d'Israël. Donc il a vraiment un espèce d'élan avec lui assez incroyable. Et la participation électorale chez les Palestiniens d'Israël est à plus de 65%, ce qui est un score historique. Jamais les Palestiniens d'Israël avaient autant voté aux élections. Donc vraiment, ça fonctionne, ça fait sens et ça prend. Et là arrivent les fameuses photos des négociations entre Odé et Benny Gantz, qui est à l'époque le principal leader, et avec Lapid aussi, les principaux opposants Netanyahou. Ils négocient. Ce que fait Odé, c'est très simple, il dit voilà, moi je suis prêt à vous donner mes 15 députés pour que vous formiez votre gouvernement. En retour, j'ai une série de conditions, il y en avait à peu près entre 15 et 20 conditions. Et les conditions, en fait, devaient permettre à ce que Israël, si elles étaient appliquées évidemment à 100% toutes, ça devait permettre à Israël, d'ici 5 à 10 ans, d'être un pays quasiment égalitaire en termes de droits entre les Arabes et les Juifs. Bon. Sauf que le problème, c'est que si tu ne t'allies pas avec lui, tu n'as pas de solution. Netanyahou, lui, il peut faire une alliance avec d'autres. Benny Gantz négocie. Et au moment où la rumeur, alors je dis bien la rumeur parce que pareil, on n'a jamais su vraiment l'essence de tout ce qui s'est passé là-dedans, les médias israéliens annoncent qu'un accord est trouvé avec Ayman Odé et Benny Gantz, ou en tout cas qu'il y aurait une possibilité de gouvernement. Il obtient même des commissions, il faut le savoir. Il obtient des commissions au Parlement, donc ça veut dire qu'il avait quand même un rôle important. Et là, vous avez au moins 3 députés au sein du centre-gauche qui font défection en disant « Nous, c'est pas possible, on ne peut pas soutenir un gouvernement qui n'aurait pas de majorité juive à la Knesset. Ici, c'est le pays des Juifs, donc on refuse de soutenir un gouvernement qui sera en plus soutenu par les communistes et des gens qui sont clairement passionnistes. On refuse ça. » Donc, fin d'élection, on connaît un petit peu la suite, hein, y a une alliance entre Netanyahou et Benny Gantz par rapport au Covid pour gérer le Covid. Et mars 2021, nouvelle élection, où là, cette fois, ils arrivent à virer Netanyahou. Sauf que, qu'est-ce qu'ils font pour virer Netanyahou ? Eh bien, entre-temps, entre mars 2020 et mars 2021, il y a un tout petit groupe au sein de la liste unifiée de Odé qui s'en va. C'est les islamo-conservateurs, qui, eux, avaient accepté de jouer le jeu d'Ayman Odé, parce que ça les arrangeait bien, ils ont obtenu un nombre de députés incroyables qu'ils n'ont jamais eu avant. Là, ils s'en vont en disant « Non, mais nous, ta stratégie, Ayman Odé, elle ne fonctionne pas, parce que tu vois bien qu'au moment décisif, il ne s'allie pas avec toi. Nous, on va faire autre chose. Nous, on va dire qu'on n'est pas palestiniens, nous, on est des Arabes israéliens. Et nous, ce pays, on sait que ce n'est pas le nôtre, mais par contre, ce qu'on veut, c'est qu'on nous respecte un peu plus. Donnez-nous un peu plus de droits et de confort de vie, et nous, on vote pour vous. Et surtout, quelque chose que Odé ne refusait de faire, les islamo-conservateurs vont dire à l'ensemble du panorama israélien, nous, on est prêts à s'allier avec n'importe qui. Netanyahou, comme l'extrême droite, comme la gauche, tant que vous acceptez nos quelques conditions. Il y en avait entre 5 et 6. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le centre-gauche, qui avait refusé de s'allier avec Odé, parce que égalitaire, etc., s'allier avec l'islamo-conservateur et forme un gouvernement. Parenthèse très courte mais importante, dans notre histoire de France, les stratégies de la France dans les territoires colonisés, c'était la même chose. Toujours privilégier les plus réactionnaires chez les indigènes pour marginaliser les progressistes. Toujours, toujours. Là, on a le même système qui se recrée et qui montre encore une fois, je pense, la prégnance des facteurs coloniaux en Israël. Cependant, et je finirai sur ça, il y a un point qui, aujourd'hui, ne peut plus aller en arrière. C'est un point vers l'avenir sur lequel tous les acteurs politiques en Israël vont devoir faire avec. Odé, par sa stratégie, a complètement dynamisé le vote des Palestiniens d'Israël et a augmenté leur participation politique. Si bien qu'en mars 2021, dans cette société israélienne où le vote juif est complètement fermé et bloqué, pourquoi il y a eu 4 élections entre 2019 et 2021 ? Parce que les gens votaient toujours pour les mêmes, donc en fait, les chiffres restent pareils, ça ne change pas, parce que vous faites une élection, que les chiffres changent, les gens votent pour leur parti. Sauf que là, on peut trouver des voix maintenant, c'est chez les Palestiniens d'Israël. Mais pour avoir leur voix, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Même les islamo-conservateurs, qui ne sont pas non plus pour l'égalité, eux, ils avaient des conditions bien précises. Par exemple, le fait que les Bédouins soient régularisés. Le fait qu'à Gaza, parce que islamo-conservateurs et le Hamas à Gaza, ils refusent de dire qu'ils ont des liens, mais idéologiquement, il y a quand même des relations et des liens. Eh bien, on élargit la zone de pêche, le carburant, etc. Donc, il y avait des conditions bien précises qu'actuellement, le gouvernement de Bennett met en place. Prenons un exemple très récent. Chaque année, le Fonds national juif organise des grands moments de plantage d'arbres dans tout Israël. Donc, ils font venir des jeunes du monde entier. Regardez, nous, on plante des arbres, on est pour la nature, etc. En fait, rien à voir. Le Fonds national juif fait ça depuis toujours pour coloniser et obtenir plus de terres. exemple, ils ont planté plein d'arbres partout, il y a des ruines de villages palestiniens. Ce n'est pas un hasard, hein, vous êtes bien. Voilà. Et chaque année, ils augmentent le nombre d'arbres plantés au sud d'Israël, dans les zones bédouines, pour que les bédouins dégagent et qu'on puisse s'accaparer leur zone. Sauf que cette année, il y avait au moins deux ou trois villages qui étaient visés par les plantages d'arbres, donc les bédouins devaient s'en aller plus loin. Ça a créé des émeutes. Si vous n'avez pas vu les images, allez les voir, des émeutes assez violentes, où on a des jeunes, beaucoup de milliers de jeunes bédouins qui sont face à l'armée, etc. Bennett, le Premier ministre, continue à dire « Non, mais on va planter des arbres, c'est quand même fou que pour des arbres plantés, ils nous prennent la tête, en gros, hein, je caricature, mais c'est presque ça. » Que fait Mansour Abbas, leader des islamo-conservateurs? Il dit « Non, mais attendez là, eux, c'est mes électeurs. Hein. Si vous les tapez comme ça dessus, moi, je me retire de la coalition. » En 24 heures, le Premier ministre Bennett, d'extrême droite, dit « Ok, stop, on arrête la plantation d'arbres dans le sud d'Israël. On va renégocier avec eux, on va voir ce qui va se passer. » Je ne dis pas que c'est un point d'espoir, mais je dis qu'en fait, ça veut dire que même aujourd'hui, quelqu'un d'extrême droite comme Bennett sait qu'il ne peut plus gérer une coalition en Israël sans avoir l'accord et l'appui d'une partie au moins des Palestiniens d'Israël. Et ça, à mon avis, c'est un élément qui peut changer la donne, puisque même Netanyahou, en mars 2021, je ne sais pas si certains ont peut-être vu ça, Netanyahou lui-même savait qu'il y avait des voies à prendre là et il avait fait des campagnes où il se faisait appeler Abou Yahir. Donc son fils s'appelant Yahir, il se faisait appeler comme ça pour dire « je suis voilà, le père de Yahir ». Et il avait mis des affiches écrites en arabe pour essayer d'avoir des voix chez les Palestiniens d'Israël parce qu'il savait très bien que c'est là où on peut avoir des voix. Voilà, je vous remercie.
Alors, nous allons maintenant écouter une chanson de Edar Ed. Edar Ed est professeur associé de littérature postcoloniale et postmoderne à l'université Al-Aqsa de Gaza. Et il est l'auteur de nombreux écrits sur la cause israélo-palestinienne, mais il est également poète et musicien. Et ce soir, nous écoutons une chanson qui s'appelle « Fawadnak ». Les paroles, je vous dis deux ou trois phrases des paroles, c'est « Et nous t'avons perdu, ô martyr, nous t'avons perdu, on s'est moqué de toi, ô prisonnier, on s'est moqué de toi, on a foiré, ô homme blessé, on a foiré ». Voilà, nous écoutons cette très très belle chanson d'Edar Ed.
فوضناك 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 يا شهيد فوضناك 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 يا شهيد فوضناك انت الك الكلمه الاولى واحنا وراك الارض الحره هدفنا السامي فوضناك انت الك الكلمه الاولى واحنا وراك الأرض الحرة هدفنا السامي فوضناك إرفاقك حسدينك وجذور أرضك حطناك فوضناك 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 يا أسير فوضناك عتم الزنزان بنور الحق يضوي سماك المجد العكا ويافا وحيفا بتستناك عتم الزنزان بنور الحق يضوي سماك المجد العكا ويافا وحيفا بتستنى في الرمل الحرة يا ابن الثورة رح نلقاك فوضناك 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 يا جريح فوضناك 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 يا جريح فوضناك المبتور منك لا ما ضاع سبقنا هناك والعاجز ترك الفكرة وحدك خلاك المبتور منك لا ما ضاع سبقنا هناك والعاجز ترك الفكرة وحدك خلاك الثورة ما تنسى الشعلة الأولى ولا تنسى في طريق العودة يا شهيد فوضنا في طريق العودة يا أسير فوضنا في طريق العودة يا جريح فوضنا فوضناك 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 فوضناك.
Pour terminer cette émission, nous allons écouter maintenant un reportage radio qui a été fait par Frédéric Mettezeau. Frédéric Mettezeau est journaliste à France Inter et il est actuellement correspondant permanent à Jérusalem. Et il a fait un reportage qui a été diffusé sur France Inter il y a quelques jours, le 10 janvier je crois. Et ce reportage traite de la richesse archéologique à Gaza. Donc je vous laisse écouter ce reportage qui est extrêmement joli. Et à la suite de ça, eh bien, nous allons nous quitter. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle émission de Une Heure en Palestine. Bonsoir à tous. Merci à Sidi pour la technique et bonne soirée à tous et à toutes.
Vous entendez gratter. Le bruit du monde ce soir est en Palestine avec les 20 ans d'un chantier exceptionnel dans un lieu partiellement coupé du monde. Nous sommes à Gaza, où des archéologues restaurent le plus vieux monastère chrétien de Terre Sainte. Saint-Hilarion, fondé au 4e siècle, découvert en 1997. Les travaux, eux, ont commencé en 2001, régulièrement interrompus, vous l'imaginez, par les guerres et les conflits. Mais vous allez l'entendre, un archéologue passionné et son équipe continuent le travail malgré tout. Et le reste, c'est Frédéric Mettezeau qui raconte.
En bord de mer, à une dizaine de kilomètres de l'Égypte, le site recouvert de sable pendant des siècles s'étend sur 14 000 mètres carrés, dont 8 000 de vestiges proprement dits. La construction des différents bâtiments s'est faite du 4e au 6e siècle byzantin et à la fin du 7e siècle des Omeyyades. L'archéologue Fodel Al-Outoul, 40 ans, dirige les opérations. Il s'arrête à l'entrée du baptistère devant une superbe mosaïque au sol qui représente le jardin d'Éden.
C'est très belle mosaïque. Magnifique mosaïque, il a dessiné un cheval, les oiseaux, lapins aussi, les canards aussi, la vigne, parce que la vigne, ça booste au sol, ça présentait la vie.
Et puis le vin, très aussi. Important dans la Bible.
Bien sûr, il a présenté aussi le vin de Gaza, comme les meilleurs vins de la monde entière de cette période.
Et on fait encore du vin aujourd'hui à Gaza ou pas? Et
non, normalement non. Aujourd'hui c'est haram même.
C'est péché.
C'est péché. C'est interdit.
Juste à côté, Fodel sait qu'un trésor reste encore à exhumer.
On est voir ici tous les sables, il y en a les mosaïques, grand, grand, grand bande de mosaïques. De là, les nefs sud, jusqu'à où il y a le voûte et la crypte.
Ça veut dire que sous ce sable, on a un panneau mosaïque qui fait une vingtaine de mètres.
Oui.
La descente d'un escalier en bois nous permet de découvrir le clou de la restauration. Avec des pierres blanches parfaitement ajustées, des murs et des voûtes ont été reconstruits.
On voit la crypte. C'est la crypte le plus grand en Palestine. On voit bien ici. On a restauré la voûte ici. Il y a la hauteur presque 5 mètres de la haut jusqu'en bas. Tous les tailleurs, les pierres, ça, on a taillé à la main, comme à l'époque.
Vous avez fait les joints à la chaux?
Oui, exactement. Tous les joints, ça, on a fait à la chaux avec le sable. Il met de le four, brûlé avec les bois. Après les sorties, il mélange avec les coquillages, avec le cendre. Après le mélange, il fait le mortier. Comme ça, ça tient.
Les tailleurs de pierre travaillent sur place. L'essentiel de l'équipe a été formé à Gaza, mais pas Fodel. Dès l'âge de 14 ans, dans son camp de réfugiés, il se passionne pour l'archéologie et finit par être repéré par l'école française biblique de Jérusalem qui l'envoie en apprentissage au Louvre. Passionné, volubile, intarissable, Fodel est très attaché à raconter l'histoire de la Palestine.
Je suis musulman. Tous les étudiants et les ouvriers, tous, nous sommes musulmans. Tout ça racontait l'histoire de la Palestine. Tout. Les chrétiens, c'est un palestinien, ou les musulmans, c'est un palestinien. Ça fait, il n'y a pas de différence. Nous, on intéressait l'histoire. On voit le hammam.
On entend bien le vent, là, hein?
Ah oui, oui. C'est un hammam byzantin, 5e, 6e. Ici, en fait, le deuxième hammam, le bain, c'est Omoyade islamique. n'y a pas de différent, ils vivaient ensemble, comme nous sommes maintenant.
Avec aussi son auberge et son réfectoire pour les moines et les pèlerins, Saint-Hilarion, fondé par le père du monachisme en Palestine, était un lieu central dans l'Orient chrétien au Moyen-Âge.
Ici, c'est le site très 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 important. Comme les pèlerins les viennent par les Méditerranéens, il est parti vers la Sinaï, il est parti vers Jérusalem aussi. Le plus grand peut-être de la Palestine.
Le chantier n'aurait jamais pu fonctionner sans l'aide des gouvernements européens, le British Council ou le Consulat général de France. Mais une ONG, Première Urgence Internationale, organise aussi toute la logistique, raconte Jihad Abou Hassan, son coordinateur terrain.
À Gaza, il y a beaucoup de trésors archéologiques. Gaza est sous blocus depuis pratiquement 15 ans. Il y a une crise financière au sein de l'autorité nationale palestinienne. Et donc la priorité est plutôt pour les besoins de base, la nourriture, l'eau et l'abri, la santé.
Pourquoi c'est important de préserver et de restaurer le patrimoine alors qu'il y a 1000 autres chantiers à faire à Gaza ?
Le patrimoine, c'est aussi un droit pour le peuple palestinien, c'est connaître son histoire, essayer de faire de patrimoine un développement socio-économique. C'est possible, c'est aussi pour montrer à notre image de Gaza, hein, pour les enfants, pour la récréation, pour connaître, pour comprendre l'histoire, pour la valoriser, etc. Il n'y a pas que la violence qui est à Gaza.
Partant de paix, Saint-Hilarion peut accueillir jusqu'à 300 visiteurs par jour.